Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Lutte contre les violences sexuelles, la RDC a lancé hier une campagne dite One Voice pour justement combattre ces fléaux et le prévenir. C'est dans le cadre du début de son mandat à la tête de l'Alliance internationale de l'initiative sur la prévention de la violence sexuelle. Par ailleurs, la RDC, le Rwanda et le HCR viennent de s'accorder sur les nouvelles mesures visant à faciliter le retour volontaire et sécurisé des réfugiés de part et d'autre de leurs frontières. Cela a eu lieu au cours d'une réunion lundi à Addis Abeba. Et connaître son statut pour mieux protéger l'avenir, c'est le sens de la campagne de dépistage volontaire de la drépanocytose, anémie SS, lancée par le dispensaire de l'ISP Kisangani. Nous en parlons avec notre invité, Dr Rachel Mukangi, médecin traitant au sein de cette structure médicale. Voilà pour l'équipe. Madame, monsieur, bonjour. D'abord, avant d'aller plus loin, sachez d'abord que les léopards de la RDC n'ont pas su sortir leurs griffes pour faire face aux Colombiens. Les Congolais ont perdu leur deuxième match sur le score d'un but à zéro. Une rencontre qui a vu beaucoup de Congolais braver le froid et sacrifier leur sommeil pour être en communion avec leurs représentants la Coupe du Monde à cause de l'heure tardive à laquelle le coup d'envoi a été donné, soit 3h, heure de Kinshasa. Une situation due au décalage horaire avec le Mexique où ces matchs ont été joués. Des détails avec Jean Gando.
La RDC est passée à côté de son rendez-vous face à la Colombie. Dominée dans tous les compartiments du jeu, les Léopards ont subi pendant de longues minutes la pression offensive de leurs adversaires. Sans les interventions décisives du portier Lionel Passy, la défaite aurait pu être bien plus lourde pour son équipe. À force de reculer, les Congolais ont fini par céder. Les Colombiens ont trouvé la faille peu avant le dernier quart d'heure de la seconde période. Durant cette rencontre, la ligne offensive congolaise a été étroitement surveillée au point de laisser le gardien colombien passer une grande partie du match sans être véritablement inquiété. Le premier tir cadré des Léopards n'est intervenu que dans les arrêts de jeu. C'est d'ailleurs dans ces ultimes minutes que les Congolais ont tenté de se projeter timidement dans les camps adverses. Ce sursaut tardif n'a toutefois pas suffi à inverser la tendance. Pour certains analystes, la gestion du match par le sélectionneur national pourrait expliquer cette contre-performance. Cette rencontre semblait pourtant à la portée des fauves congolais qui n'ont pas su imposer leur jeu ni préserver leurs chances de qualification pour le second tour. La dernière journée s'annonce décisive. La RDC affrontera l'Ouzbékistan dans une rencontre déterminante pour tenter de sauver l'honneur dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde.
Et comme annoncé en titre, le gouvernement congolais a lancé hier mardi à Kinshasa la campagne One Voice destinée à lutter contre les violences sexuelles et à les prévenir en RDC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du début du mandat de la RDC à la tête de l'Alliance internationale de l'initiative sur la prévention de la violence sexuelle, PSI. À cette occasion, le ministre des Droits humains a dressé un tableau sombre de la situation des femmes et des filles victimes de viols à la suite des conflits dans l'est du pays. Des détails avec Blaise Ndongala.
La RDC a pris les rênes de l'Alliance internationale de l'initiative sur la prévention de la violence sexuelle au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle à temps des conflits, célébrée le 19 juin de chaque année. Dans son exposé, le ministre des Droits humains a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place du Fonds Narev, service chargé de la réparation des victimes de viols liés aux guerres. Samuel Mbemba a profité de cette tribune internationale pour présenter des données alarmantes issues des zones de conflit dans l'est de la RDC.
C'est depuis plus de 30 ans que les violences sexuelles liées aux conflits sont une réalité en République démocratique du Congo. Il faudra renforcer notre dispositif juridique, nos politiques et nos programmes avec un engagement accru.
En somme, l'intervention du ministre des Droits humains marque la volonté de la RDC d'internationaliser la défense des droits de ses citoyens et de transformer son statut de terrain d'observation en celui d'acteur décisionnel majeur dans la formulation des politiques mondiales de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit.
Le Centre d'études pour l'action sociale CIPA son appel à la conscience des autorités politiques de la RDC. Il leur demande de se focaliser sur les questions urgentes des Congolais, le vivre ensemble harmonieux, la recherche de la paix et la sécurité. Cet appel a été lancé hier mardi à Kinshasa par le directeur de ce centre à l'occasion des journées sociales du CIPA édition 2026. Thème retenu cette fois, la paix, des accords miniers avec les États-Unis et l'avenir de la démocratie en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les acteurs de la société civile, les acteurs
acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que des chercheurs vont analyser les différents accords signés par la RDC en vue de proposer des recommandations pour arriver à une paix durable. Écoutez à ce sujet le directeur du CEPAS, son père Alain Nzadi, au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Malgré la signature des accords, nos frères et sœurs de l'Est du Congo continuent à souffrir de cette guerre, de cette instabilité. Le M23 est toujours là. Au regard des accords que nous avons récemment signés, que la paix tarde toujours à venir sur le terrain, on se rend compte que l'instabilité continue. Et alors, notre but pendant ces journées, c'est d'analyser les différents accords et de voir comment nous pouvons justement faire pour que ça se traduise par une paix sur le terrain.
Le débat autour de la Constitution est également à l'ordre du jour.
La question, ce n'est pas d'abord de savoir s'il faut changer ou modifier ou réviser ou pas, mais c'est de tenir compte des critères essentiels, c'est-à-dire voir l'opportunité, voir la finalité de ce changement, qu'est-ce qu'on met à l'avant, est-ce que c'est le bien supérieur de la nation ou bien on met d'abord en avant les personnes. Parce que la Constitution devrait tenir compte du bien-être du pays et non simplement se focaliser sur des personnes particulières, puisque nous passerons tous, mais notre pays restera et c'est important que nous donnions au pays des lois qui survivent aux hommes qui passent.
Notez que les journées sociales du CEPAS édition 2026 sont organisées en collaboration avec l'Université Léola du Congo, le Centre Ebouteli, le Centre d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises du Congo, CADI-SEC, et le réseau ecclésial du bassin du Congo, REBAC. L'UDPS a saisi le parquet général pris la Cour de cassation à Kinshasa pour dénoncer des individus usurpant l'identité du parti et de son aile Force du Progrès. Le secrétaire général Augustin Kabuya a demandé poursuites judiciaires pour mettre fin aux actes de violence et aux débordements attribués à ces imposteurs. Une démarche qui vise, selon lui, à protéger l'image du parti présidentiel, à restaurer la discipline, à rappeler que la Force du Progrès ne doit pas servir de refuge pour les malfaiteurs et les criminels. Amissi Makutano, député national et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, explique au micro de Guy Matin.
C'était important pour l'UDPS de pouvoir prendre une décision de saisir la justice. Parce que le jeu de l'opposition, comme vous le savez, ils veulent marcher avec le mensonge, des incriminations, de manière à se victimiser sous une appellation de la Force du Progrès, qui d'ailleurs, ce sont eux qui fomentent, ce sont eux qui organisent, ce sont eux qui sont en connivence avec les bandits, les délinquants. Quand ils sont débordés par leurs événements, parfois de ne pas donner l'argent à ces inciviques qui les invitent dans leurs manifestations, ils les collent au nom de l'UDPS. Et c'est important que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux puissent saisir les instances à habiliter pour que ces gens-là puissent aussi avoir l'opportunité de pouvoir doigter sur les gens qu'ils ont envie dans leurs manifestations en train de les violenter. Nous avons tous suivi comment ils se sont munis des machettes, mais malheureusement, avec même les déclarations des prélats, ils n'ont même pas fait allusion à des gens qui ont amené des machettes pour violenter nos services de sécurité. Et je crois que c'est une bonne chose et nous avons démontré à la face du monde que l'UDPS reste ce parti très engagé dans la dynamique de la démocratie et nous ne pouvons pas nous dérober à la règle.
La plainte de l'UDPS au parquet général vise en réalité la protection du groupe terroriste Force du Progrès. Il s'agit d'une fuite en avant, une distraction, une démagogie et une désorientation de l'opinion nationale et internationale au regard de violences commises par ces jeunes. Réaction de Prince Epengé de la Mouka. Pour lui, c'est que le peuple attend de Kabuya, du vice-premier ministre de l'Intérieur et du procureur général, c'est la suppression, l'interdiction pure et simple et le démantèlement de plus de 300 bureaux de fortune des miliciens dans les carrefours de Kinshasa. On écoute au Prince Epengé dans cet extrait proposé également par Guy Maté.
La plainte déposée par l'IDPS au parquet général est un stratagème qui vise non seulement à couvrir les dégâts, les crimes et les violences perpétrées par la milice des Forces du Progrès, mais aussi c'est une logique de distraction et de désorientation de la communauté tant nationale qu'internationale. Eu égard aux pressions subies de la part de la communauté internationale, la Force du Progrès réprime systématiquement toutes les manifestations de l'opposition et de la société civile, à la barbe et au nez des autorités civiles et militaires. Vouloir nous dire que l'IDPS ne reconnaît pas les agissements, c'est prendre le peuple pour des imbéciles. Il faut à tout prix, et c'est urgent, que cette milice soit interdite de toute activité pour préserver la paix sociale. Agir autrement de la part du procureur général, de la part de M. Kabuya et de la part des vêtements d'intérieur serait fait preuve de complicité.
La République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés viennent de s'accorder sur les nouvelles mesures visant à faciliter le retour volontaire et sécurisé des réfugiés de part et d'autre de la frontière. Cela a eu lieu au cours d'une réunion lundi à Addis Abeba. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts pour amener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le point avec Jude Mister Bilanda.
À l'issue de cette réunion ministérielle de haut niveau, les différentes parties ont salué les progrès déjà enregistrés dans les processus de retour des réfugiés. Selon les communiqués finaux sanctionnant cette rencontre, aujourd'hui, la RDC accueille près de 200 000 réfugiés rwandais, alors que le Rwanda héberge plus de 84 000 réfugiés congolais. Les trois parties ont réaffirmé leur engagement à garantir un retour volontaire sans pression et à accompagner les familles dans leur intégration. Depuis début 2025, plus de 8 000 réfugiés rwandais sont rentrés chez eux à partir de la RDC, dont plus de 2300 les 6 derniers mois. Et l'objectif est d'atteindre 10 000 retours d'ici la fin de cette année. Les deux pays ont également trouvé un accord sur l'utilisation du poste frontalier Kamanyola-Bugarama pour permettre les retours de plus de 3600 réfugiés rwandais vivant actuellement dans plusieurs localités du Sud Kivu. Kinshasa s'est donc engagé à améliorer les voies de transit nécessaires à leur déplacement jusqu'à cette frontière. Cependant, le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda n'a pas encore commencé. Les autorités congolaises se sont engagées à identifier les zones prioritaires pour leur retour à partir d'octobre prochain en tenant compte de la situation sécuritaire sur le terrain.
Pendant ce temps, la situation humanitaire dans les territoires des Fizi au Sud Kivu continue de se détériorer jour après jour. Les forces vives locales qui tirent la sonnette d'alarme lient cette crise aux affrontements opposant les FARDC aux rebelles Twirwaneho et à leurs alliés dans la zone de Minembwe. Ces combats provoquent une rareté des vivres et des biens non alimentaires dans cette partie du Sud Kivu. Rodeline Tibonera.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants paient les prix de l'insécurité dans les territoires de Fizi, déplore Maître Jacques Alimassi, président de la société civile locale. Alors que les combats s'intensifient à Minembwe, les opérateurs économiques et les citoyens se retrouvent privés de voies d'approvisionnement en produits essentiels, les exposant à une crise majeure.
Les routes d'entrée ou de sortie sont devenues bloquées et que donc les denrées de première nécessité ne sont pas visibles. Toute la population se concentre au niveau de Minembwe Centre. Il n'y a pas moyen de quitter Minembwe Centre pour traverser ou aller au-delà de Minembwe Centre parce que Minembwe est encerclé par les éléments de Néo et M23.
Cette situation est confirmée par l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badi Banga, qui en appelle à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique en ces moments difficiles. Il déplore également les attaques de drones menées par les rebelles contre les infrastructures civiles, parmi lesquelles les hôpitaux. Selon les estimations des OCHA, au 30 avril dernier, les territoires de Fizi comptaient près de 590 000 personnes déplacées avec des besoins croissants en vivres, abris, santé, protection ainsi qu'en eau, hygiène et assainissement.
Examen d'État 2026, près de 2000 finalistes n'ont pas pris part aux épreuves dans la province éducationnelle Maïndombe 3 sur plus de 10 000 élèves inscrits en début de l'année scolaire. Selon le ministre provincial de l'Éducation, Justin Liolo, cette déperdition est principalement due à la grève des enseignants déclenchée à la suite du non-paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Cette interruption des cours a poussé certains parents à retirer leurs enfants de l'école, tandis que plusieurs filles finalistes ont abandonné leurs études après être tombées enceintes. Le constat a été dressé à Koutou lors du lancement officiel des épreuves de l'examen d'État présidé par le gouverneur Kosso Kivani. On l'écoute au micro de Jean-Claude Tangamou.
Vraiment, le constat était amer, surtout du côté effectif. Il y a eu des perditions. On a quitté des 10 000 et quelque chose de recrues jusqu'à 8 000. Cause principale, c'est la grève qui a émaillé la province suite à l'impayement des enseignants. La grève a pris plus de 2 mois. Et vous savez, quand les enfants ont fait 2 mois au village, et quand ils vont reprendre, il y a certains finalistes, surtout les filles, qui n'ont pas pu reprendre parce que beaucoup ont été engrossés. C'est comme ça qu'on a remarqué que vraiment il y a la déperdition. Il y a certains parents qui ont perdu d'espoir, ils n'avaient plus l'espoir que vraiment les cours vont reprendre. Ils ont retiré les enfants pensant que les enseignements ne seront plus de qualité et récupérés. Ils ont retiré les enfants pour attendre l'année prochaine.
Actualité internationale.
Amnesty International a condamné hier la décision de l'Union européenne d'accroître sa coopération avec la Libye pour freiner les flux migratoires alors même que la répression contre les migrants s'intensifie dans le pays. Autre chose, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié lundi l'épidémie actuelle du virus de Bundibugyo d'épidémie d'Ebola, la croissance la plus rapide jamais enregistrée au cours des premiers mois d'une épidémie d'Ebola en Afrique avec plus de 1000 cas confirmés dont plus de 200 décès.
L'invité.
Connaître son statut pour mieux protéger l'avenir, c'est le sens de la vaste campagne de dépistage volontaire de la drépanocytose, anémie SS, lancée par le dispensaire de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kisangani. Objectif, briser les tabous autour de cette maladie génétique et sensibiliser la jeunesse avant l'engagement de toute une vie. Pour en parler, nous recevons Dr. Rachel Mukangi, médecin traitant au sein de cette structure médicale. Elle s'entretient avec Jacques Mukongole.
Docteur Rachel Mukangi, bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous avez lancé ici, à l'ISP, une campagne de dépistage volontaire de l'anémie SS. Pourquoi avoir choisi de démarrer spécifiquement au sein d'une institution universitaire?
Au départ, nous avons organisé une journée de lutte contre la drépanocytose le 19 juin 2026, à l'occasion même de la même journée qui est la journée dédiée à la drépanocytose du point de vue mondial. C'est ainsi que nous nous sommes dit, au lieu de se limiter à une simple sensibilisation, c'est mieux de passer à la pratique. Et cette pratique était d'inviter les étudiants qui ont été sensibilisés les jours même de la conférence à faire le dépistage gratuit de la drépanocytose, puisque la connaissance de son statut hémoglobinique permet directement de prévenir cette drépanocytose en évitant le partenaire qui peut prédisposer la personne à avoir des naissances des enfants porteurs de l'allèle SS.
En quoi le dépistage avant de s'engager en couple est-il la meilleure arme de prévention pour les jeunes?
Pour mieux prévenir la drépanocytose chez les jeunes, je pense que le dépistage dit très drépanocytaire chez ces derniers est très important parce que si le jeune est conscient et qu'il sait qu'il est déjà porteur de cet allèle S, c'est difficile qu'il puisse s'engager avec une autre personne, avec une femme ou un homme porteur de cet allèle S, sachant que c'est un risque qu'il est en train de faire pour sa descendance, pour les générations futures. Une fois que ce jeune qui est conscient de son statut hémoglobinique s'engager avec une autre personne porteuse de cet allèle S, ça prédisposerait la descendance à faire des enfants SS, ce qui n'est pas bon pour la communauté parce que les enfants SS, non seulement ce sont des enfants qui sont très malades, mais également ça déstabilise un peu les ressources financières au sein de la famille.
Après l'ISP Kisangani, est-ce que vous allez étendre cette campagne vers d'autres secteurs de la population?
On aimerait bien étendre cette campagne vers d'autres secteurs de la population, mais malheureusement, nos moyens sont limités. Mais s'il y a un financement extérieur qui nous boostait pour qu'on puisse étendre cette campagne, même pour toute la ville de Kisangani, on sera disponible pour faire ces dépistages, vu que dans notre structure, nous avons des infirmiers, nous avons des laborantins, nous avons des médecins qui ont de l'expérience et qui peuvent facilement participer à cette campagne de dépistage.
Comment le public réagit-il pendant le dépistage?
Déjà, pendant le dépistage, les personnes qui ont de maladies drépanocytaires dans leur famille sont stressées puisqu'elles se disent « Est-ce que je ne suis pas drépanocytaire ?» Donc, ça dépend de la situation familiale. Pour celles qui n'ont pas de drépanocytaires dans leur famille, elles passent les examens calmement et à la fin, vous vous rendez compte qu'ils sont AA, ou soit AS, porteurs asymptomatiques. Mais pour ceux qui ont de malades dans leur famille, ils sont très stressés parce que c'est possible qu'ils soit aussi SS ou AS.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas pathologiques que vous avez détectés pendant cette campagne?
Jusque là, nous avons détecté au moins une quinzaine de cas où il y a des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des AS, mais des SS comme tels, pas encore. Donc jusqu'à présent, au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, il y a quelques cas de porteurs asymptomatiques. Les jeunes là qui sont porteurs, on les a conscientisés, on leur a dit de se méfier, de s'engager avec des personnes qui sont AS pour prévenir la drépanocytose dans leur famille. Et elles ont ont accepté l'information. Elles se sont dit que ça leur permet de prendre des dispositions pour leur génération future et ils ont encouragé l'initiative.
Concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute et qui hésite encore, où peut-on se faire dépister aujourd'hui et combien de temps cela prend-il?
Celui qui hésite encore, ils doivent savoir que la drépanocytose est réelle, elle existe, on n'en fait plus un tabou, on en parle. C'est mieux toujours de connaître son statut hémoglobinique. Parce qu'en connaissant son statut hémoglobinique, on ne se protège pas soi-même, on protège toute une génération future. Je pense que ces personnes-là doivent quitter cette crainte et venir se faire dépister ici à l'ISP Kisangani quand le dépistage est encore gratuit. Mais à un certain moment, on pourra avoir une rupture des stocks. Il y a encore les laboratoires en périphérie où on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ils peuvent toutefois y passer pour ces genres d'examens.
Docteur Rachel, merci.
Merci beaucoup.
Docteur Rachel Mukangi, médecin au dispensaire de l'ISP Kisangani, interrogé par Jacques Moukonkole. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda avec Alain Goy à la mise en onde. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée.